Bonjour à chacun, bonjour à tous. Voyez ce qu'écrit Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13, verset 12. Alors nous sommes non pas dans la suite de l'approche des voyages de Paul que Pierre a commencé, et même si j'ai essayé d'y résister, je n'ai pas pu totalement y résister quand même. Et donc je vais être obligé de dire beaucoup de choses sur Corinthe, mais avec Pierre nous sommes convenus du fait que sur Corinthe il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, donc on ne fera qu'effleurer le sujet. Voilà donc ce qu'écrit Paul aux Corinthiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord peut-être de faire un petit point sur le contexte de tout ça. Une précision nécessaire. Paul écrit cette épître, cette lettre, quelque temps après avoir vécu à Corinthe, et non pas quand il est à Corinthe, évidemment. Vous vous rappelez, dimanche dernier, Pierre nous a rappelé que Paul était à Athènes, et donc quand il est à Corinthe, eh bien il vient d'Athènes. Il va passer à Corinthe à peu près 18 mois, d'après ce que l'on sait, lors de son deuxième voyage, vers 51-52 après Jésus-Christ. Et c'est une église à laquelle il écrit, une église qu'il connaît bien, qu'il connaît de l'intérieur, pas simplement pour y être passé vite, mais il a eu le temps d'y vivre, donc de nouer des relations fortes. Et alors qu'il effectue son troisième voyage, entrepris en 53, celui-là, eh bien, il va s'installer à Éphèse, en Asie mineure, pour environ 3 ans. Et c'est pendant cette période-là, quand il est à Éphèse, qu'il écrit à l'église de Corinthe dans laquelle il a vécu. Et cette lettre, on la date à peu près de 54 après Jésus-Christ. Alors, on sait que ce qui va le pousser à écrire aux Corinthiens, c'est qu'il ne reçoit pas de très très bonnes nouvelles. Il y a toute une série de problèmes, de sujets qui posent problème à Corinthe. C'est une église qui est pleine de turbulences et qui cumule les difficultés. Et sur ces difficultés, je pense que Pierre nous en dira encore bien davantage quand le voyage de Paul dans sa bouche passera par Corinthe. Alors pourquoi est-ce si compliqué à Corinthe ? Corinthe, c'est un lieu de choc des cultures. Nous sommes en Europe. Paul est passé par les églises de l'Asie mineure et là, il est en Europe. Et c'est la pensée grecque qui imprègne cette région du monde de façon très très forte. Alors vous vous rappelez dimanche dernier que Paul a vécu la confrontation avec ses penseurs, ses intellectuels grecs, sur l'agora, là où on échangeait des idées philosophiques entre autres. Et à Corinthe, il va vivre une autre confrontation. C'est une ville complètement cosmopolite, Corinthe. À quoi on pourrait la comparer ? On pourrait peut-être la comparer, c'est la première idée qui m'est venue, à Marseille, d'une certaine façon. La ville a été détruite un siècle avant, vers 140 avant Jésus-Christ, et elle est reconstruite par les Romains. Et elle redevient, parce qu'elle a été quasiment presque rayée de la carte, elle redevient une ville prospère, riche, et qui compte, du sud de la Grèce. Elle est située, pas directement au bord de la mer, mais il y a quelques kilomètres qui la séparent de la mer, très très peu. Corinthe donne sur 2 ports, en fait, différents. Et elle est surtout située au carrefour de 2 axes commerciaux, le nord-sud et l'est-ouest. Et vous avez d'un côté les marchandises de luxe qui arrivent de l'Orient, et les produits des colonies occidentales, grecques et romaines, qui arrivent ici aussi. Et alors, le petit truc intéressant, c'est que quand même, c'est un des rares endroits où on met à un moment donné des bateaux sur la terre pour les tirer, pour leur faire traverser 6 kilomètres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plutôt que de faire le tour par le sud du Péloponnèse, on va avoir, sur cet isthme, un espèce de chemin, qu'on peut voir encore, où on tire les bateaux et à force d'hommes, on les tire, on les pousse, on leur fait traverser 6 kilomètres pour les amener sur la mer de l'autre côté. Alors depuis, on a trouvé plus simple, ça s'appelle un canal. Mais le canal de Corinthe, il était en projet il y a déjà des millénaires, et il a quand même été fait très tard. Hein. Mais voilà, le canal de Corinthe a permis d'éviter de hisser les bateaux sur la terre et de les tirer. Alors à Corinthe, on croise une population hétérogène, forcément, composée de Romains, de Grecs, et d'une communauté juive qui vient d'être chassée de Rome par l'empereur Claude. Mais on voit aussi des Syriens, on voit aussi des Égyptiens. Et la communauté de Corinthe, concernée par les épîtres de Paul, elle est donc composée, il le dira d'ailleurs, de Grecs, de Romains, de Juifs, de riches, de pauvres, d'esclaves, d'hommes libres, de lettrés, d'ignorants, de truands, de bandits, divers, d'hommes et de femmes, bien sûr. Et cette église, c'est un bel exemple des communautés fondées par Paul. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. En clair, vous n'êtes pas le dessus du panier, la crème de la crème. C'est un peu ça qu'il leur dit. Voilà pour le contexte à grands traits, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui amène Paul à écrire une telle chose aux Corinthiens ? On le voit, ce verset. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Qu'est-ce qui l'amène à faire la différence entre un aujourd'hui de l'imparfait et un demain de la perfection ? D'abord, la nécessité de remettre les pendules à l'heure. Il s'agit en fait de remettre les choses à plat avec cette église qu'il connaît bien et à laquelle il écrit à distance, en rappelant qu'au départ, certes, sa situation est enviable. Chapitre 1, versets 4 à 8. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » On a affaire à une église riche, à laquelle il ne manque aucun atout. C'est ce que dit Paul, finalement. Et ça en fait un exemple assez rare parmi toutes les églises que Paul a fondées et fréquentées. Mais en même temps, dans cette église, il y a quand même quelques soucis. Premier souci, elle est divisée. Deuxième souci, elle cultive à loisir la jalousie et les disputes. Troisième souci, en son sein, il y a des attitudes très orgueilleuses. Quatrième souci, ils sont incapables de gérer des situations graves. Cinquième souci, ces membres intentent des procès les uns contre les autres. Et j'en passe. Et tout ça, c'est Paul qui leur dit. Voilà ce que j'identifie comme problème chez vous. Et il y en a quand même quelques-uns. Tant de capacités, tant de possibilités, pour en faire quoi ? Il y a vraiment là un sujet de questionnement permanent pour une communauté, pour une église, pour une assemblée de croyants lorsqu'elle est en crise. Vers quelles ressources se tourner alors qu'on a déjà tellement reçu ? Est-ce que ça ne serait pas simplement se rappeler de ce qu'on a reçu ? Comme dit Paul, les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Mais ça, les Corinthiens ne le font pas et ils ne le voient pas à ce moment-là. Au-delà de ce décalage entre la vérité de son état et sa propre perception, il y a quelque chose qui est encore plus embêtant pour l'église de Corinthe. Elle n'y voit pas clair, c'est vrai, mais ses membres, en plus, sont de plus en plus contents d'eux-mêmes et assez inconscients en général. Des gens contents d'eux-mêmes, les membres de l'église de Corinthe ont petit à petit transformé la réalité. Il ne leur manque aucun don, mais ils n'oublient qu'une chose. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» leur rappelle Paul. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Ils sont contents d'eux-mêmes, mais ils sont devenus suffisants. Alors, on passe vite, en général, de la reconnaissance pour ce dont on dispose, ce qu'on reçoit, à l'autosatisfaction, un peu béate, on est quand même bon, hein, finalement. C'est un danger dans lequel Corinthe est tombée. Ils étaient contents d'eux. Alors Paul va les bouger un peu sur cette pente confortable, sur ces certitudes. Nous avons, nous aussi d'ailleurs, besoin d'être régulièrement bougés dans nos certitudes, que nous faisons tout bien comme il faut. Alors entendons-nous bien, le contraire de la certitude, ce n'est pas l'incertitude, ce n'est pas l'insécurité, ce n'est pas le doute permanent, c'est plutôt la vigilance. Quand je suis trop contente de moi, qu'est-ce que je ne vois plus autour de moi ? Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, etc. Donc des gens contents d'eux-mêmes et des gens inconscients. Et la vigilance, l'Église de Corinthe commence à la perdre totalement, au point de laisser passer des choses énormes en son propre sein. On trouve dans cette Église un cas d'inceste, des gens qui se font des procès à eux-mêmes, une façon de pratiquer la scène qui lui ôte toute signification. Bref, on pourrait qualifier la situation en parlant de pagaille dans cette Église. Cette Église, c'est la pagaille. On a perdu les repères. Et à coup sûr, il y a une forme d'aveuglement quant à des pratiques qui n'ont pas lieu d'être. Il faut rappeler que l'inceste n'est pas toléré dans les différents environnements culturels qui constituent Corinthe. Il est donc d'autant plus choquant dans l'Église. Deuxième élément, les procès. Les procès entre chrétiens. À quoi cela sert-il d'être une Église si plutôt que de rechercher le consensus ou la réduction du désaccord, on utilise les mêmes procédures de rétablissement de son droit devant les juges? Et c'est de ça que les Corinthiens avaient l'habitude, d'aller plutôt plaider devant le tribunal que de chercher à régler leurs questions entre eux. Qu'est-ce qui compte le plus ? L'entente recherchée au sein de la communauté ou faire triompher son bon droit avant tout ? Auquel cas, Corinthe démontre que le fait d'être chrétien ne produit rien de nouveau, rien de spécifique dans la relation humaine. Et la scène, troisième exemple. Elle est, dans la tradition ancienne, liée au repas, à une agape. Nous aurons une agape tout à l'heure. Mais chez les Corinthiens, on arrive alors là à une confusion totale. Pendant que certains prennent la scène, il y en a d'autres qui ont déjà commencé à manger leur repas, et il y en a qui ont déjà bien bu, qui sont déjà un peu pompettes. C'est ce que dit Paul. Il ne dit pas autre chose. C'est la pagaille, y compris au milieu de la scène. Vous en avez perdu complètement le sens. Bref, cette communauté à ce moment-là, c'est tout sauf un rassemblement communautaire, c'est un rassemblement d'individus qui sont quand même assez égoïstement tournés vers eux-mêmes. Alors, il faut quand même reconnaître à Corinthe que c'est un contexte difficile. C'est difficile parce qu'ils sont quand même pris au défi d'une culture dominante. L'Église de Corinthe vit dans un contexte qui l'affronte à des questions particulières. Par exemple, les repas d'affaires, d'affaires, on dirait ça aussi encore au jour d'aujourd'hui, dans cette ville commerçante, ils se font à partir des viandes sacrifiées aux idoles. Question, est-ce qu'on doit le faire ou pas ? Les gens qui commercent et qui sont membres de l'Église à Corinthe, il faut bien qu'ils aillent faire des repas d'affaires. Sauf que là, il y a des viandes sacrifiées aux idoles à manger. Problème, qu'est-ce qu'on fait ? On mange ou pas ? Les femmes grecques, dans les temples, les multiples temples de Corinthe, ils ont l'habitude de les voir prier tête nue, les femmes grecques, dans les temples. Que doivent donc faire les femmes chrétiennes dans une culture où, au contraire, dans la rue, tout le monde porte le voile ? Vous voyez, c'est des questions pas nouvelles, hein. Troisième élément, certains membres de l'Église ne savent pas se situer. Ils prennent part à la vie de l'Église, avec certainement beaucoup d'allant et de bonne volonté et de plaisir, et en même temps, ils prennent part au culte aux idoles, parce que le culte aux idoles, c'est quelque chose mais qui est complètement répandu dans la vie de tous les jours autour d'eux. Donc, à un moment donné, ils sont sur un peu entre deux chaises, sur une ligne de crête, ils ne savent pas trop se situer. Alors, la diversité des origines à Corinthe, j'ai déjà insisté là-dessus, les nationalités, les classes sociales, et Paul le décrit aussi, c'est source de difficultés, mais elle va donner aussi à Paul l'occasion de s'exprimer sur la nature de l'Église. Et vous connaissez ce fabuleux passage d'1 Corinthiens 12 où Paul parle du corps, de l'Église en tant que corps, au service de l'unité, de la cohésion et de l'entraide. Vous connaissez, c'est tout un chapitre, on n'a pas le temps malheureusement de lire tout ce chapitre, mais il est tellement connu que les deux premiers versets vont résonner, les versets 12 et 13 vont résonner à votre mémoire. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc on l'a vu, notre église de Corinthe est engluée dans ses contradictions. Elle est composite, elle est bigarrée, et pour autant, elle a du mal avec sa diversité d'origine et de classe sociale. Elle établit des hiérarchies entre ses membres. Paul va leur rappeler, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Elle établit des hiérarchies entre les dons dont disposent ses membres, les dons spirituels. Paul va leur rappeler, il y a diversité de dons, certes, mais le même esprit. Et la perspective que Paul est amené à leur donner, c'est ce qu'ils ne voient pas, qu'ils ne voient plus. Ils ont tous besoin les uns des autres, et chacun a sa place, dans ce qui est après tout un ensemble fait de personnes diverses. Ils ont justement perdu cette vision d'ensemble, ils ne sont plus solidaires, et pire, ils cherchent le moyen de se distinguer les uns par rapport aux autres. Et c'est une vision ras des pâquerettes de la communauté, avec pour certains la culture d'un sentiment de supériorité. Paul veut favoriser une prise de conscience à travers cette lettre. Et pour cela, il est passé, on l'a vu, à un autre niveau d'approche du problème de Corinthe, avec cette image du corps et de la solidarité nécessaire de ses membres et de leur interdépendance. Et ça, c'est précisément ce qu'ils ont absolument besoin d'entendre. Mais comme il le dit lui-même, il ne va pas les laisser tranquilles. Et il va dans la foulée passer à un autre niveau, et il le leur annonce. À la fin du chapitre 12, il dit « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Traduction, je vous ai dit ça, c'est déjà du costaud, mais je vais vous en dire encore un petit peu plus. Je vais vous amener plus loin. Alors on connaît le niveau où Paul veut faire porter les regards. C'est chapitre 13, ce merveilleux chapitre, versets 1 et 2. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Et ça fait du bruit, une cymbale qui retentit. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je ne suis pas l'amour, je ne suis rien. » Traduction. Vous vous êtes posé la question de savoir quel est le don le plus élevé ou le ministère le plus élevé ? C'est pas la question. Et Paul dirige alors leur regard vers autre chose. Et à ce sujet, il y a des choses à dire aux Corinthiens. L'amour, les Corinthiens baignent dedans, dans une culture diversifiée, mais aussi une culture dominante, je l'ai dit tout à l'heure, qui est la culture grecque, où la conception de l'amour distingue trois grands types. Eros, philia et agapé. Eros, c'est l'amour qui prend. C'est, bien sûr, la divinité de l'amour chez les Grecs et Cupidon chez les Romains. C'est le symbole de l'amour dans sa dimension sexuelle, mais pas simplement. Aussi dans l'amour pour la patrie, dans l'amour de l'argent. Tout ça, c'est Eros chez les Grecs. C'est un investissement dans un objet, en fait. Philia, c'est l'amour qui partage. Autrement dit, c'est l'amour qui prend et qui donne. C'est l'amour-amitié, c'est le souci de l'autre. Aristote l'a décrit longuement. C'est la chaleur humaine, c'est l'affectivité, c'est l'élan, la générosité qui nourrit et qui stimule l'amitié. Alors, Philia, on a vu Philia ces derniers jours avec ce désir des habitants des Alpes d'Haute-Provence d'accueillir les familles des victimes après l'accident. On a vu Filia à l'œuvre. Et on a peut-être même vu Agapé, finalement, en partie, puisque Agapé, c'est l'amour qui donne. C'est la Filia qui est poussée à son maximum. C'est l'amour qui n'attend pas de retour et qui est sans contrepartie. Et c'est le mot, d'ailleurs, qui sera employé majoritairement dans le Nouveau Testament. Les spécialistes nous disent 300 fois. Amour devient agapé dans le Nouveau Testament de façon assez systématique. Voilà pour ces conceptions de l'amour dans lesquelles baignent plus ou moins les Grecs à l'époque. Et il est bon de se rappeler que le Nouveau Testament marque une transition importante. Ce n'est pas une anecdote, c'est une illustration. C'est Jésus qui demande à Pierre, je ne sais plus si c'est à deux ou à trois reprises, Pierre, m'aimes-tu ? Et quand il emploie le mot amour dans la question, c'est bien d'agapé qu'il s'agit. Sans condition, sans retour. Gratuitement. Et Pierre lui répond, filia, filéo. Je t'aime, d'amitié, on est bien ensemble, on fonctionne plutôt bien ensemble. Et Jésus lui repose la question, mais m'aimes-tu ? Toujours agapé. Et Pierre répond, oui, filéo. Et Jésus finit par lui demander la troisième fois, est-ce que filéo ? Faut analyser cet épisode-là. Jusqu'où tu en es exactement dans ta relation avec moi ? Donc voilà, c'est important de reprendre la mesure de ça, parce que Paul va leur asséner quelque chose de difficile à entendre et à digérer, ce sont les fameux versets 4 à 8. Et en ayant dans la tête tous ces sens du mot amour, voilà ce sur quoi il les amène. Il est bon de l'avoir, d'avoir en tête ce qui va suivre. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça doit résonner dans les têtes des Corinthiens, cette affaire-là. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, les procès les uns contre les autres. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Alors ensuite, c'est ce qui va lui permettre de revenir en contraste sur leurs préoccupations de suprématie les uns par rapport aux autres. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce que dit Paul aux Corinthiens à travers ça ? Arrêtez, vous êtes tellement encombrés par ce souci de savoir ce qu'il y a de plus excellent comme don, vous êtes en train de construire une tour de Babel supplémentaire, de refaire avec vos dons une tour de Babel qui vous permet d'arriver jusqu'au ciel. Il leur dit encore, arrêtez votre prétention à être ainsi de petits dieux. Et nous-mêmes, nous avons constamment besoin de nous rappeler cela, parce que notre pente naturelle, c'est de prendre la façon dont nous voyons le monde pour la façon dont Dieu le considère et à nous prendre insensiblement pour ce que nous ne sommes pas. Alors Paul ne va pas les laisser là et il va situer exactement le niveau où ils se trouvent dans la suite du texte. Parce qu'il s'agit quand même de grandir. Ils se complaisent dans l'état de l'enfant. Paul les appelle à devenir des hommes. Et le verset suit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Aujourd'hui, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Paul leur dit « Vous avez besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. » En laissant de côté ce désir permanent de toute puissance et qui caractérise l'enfant et l'adulte immature. Alain Le Dain écrit « Lorsque l'enfant va grandir, La toute-puissance devra céder la place à la réalité et aux contraintes inhérentes à celle-ci. Chez l'enfant, cette acceptation ne sera ni immédiate ni naturelle. Il oscillera entre le déni d'une certaine réalité et la prise de conscience de son impuissance. Devenir adulte, c'est faire le deuil de la toute-puissance infantile, de l'immortalité et d'un monde dont on avait cru être le centre. C'est un travail d'humanisation qui ne se fait pas facilement et sans peine. L'adulte, il a appris qu'il est limité, qu'il partage avec les autres la même condition humaine, alors que les enfants se croient éternels et seuls au monde. L'adulte accepte le manque et ne revendique pas sans cesse une totale satisfaction et un comblement parfait de ses besoins. L'adulte immature, lui, peut se transformer en bébé hurleur, sans oreille pour entendre et sans bouche pour exprimer une requête. Il est prêt, non à demander à autrui, mais à prendre de force ou à manipuler, c'est-à-dire à faire des autres des objets de satisfaction. Chers amis, dit Paul, grandissez, grandissez un petit peu. Et puis enfin, cette image du miroir. Paul va faire comprendre aux Corinthiens la nécessité d'accepter leurs limites perceptives et aussi leurs limites conceptuelles. Nous ne voyons Dieu que par transparence, d'une manière indirecte, confuse. Nous ne connaissons, il le dit, que partiellement. Un miroir, nous le savons tous, ça ne nous donne qu'un aspect du réel, juste une image, une approche, un reflet. Et il va falloir l'admettre, nous y faire et faire preuve de patience. Acceptons de ne pas tout savoir, c'est dur. Acceptons de ne pas tout comprendre, c'est ingrat et c'est dur à entendre. Et c'est dur à entendre pour les gens de l'église de Corinthe, qui ont ce désir de maîtrise totale, qui font pour certains d'entre eux une confiance immodérée dans la connaissance et la science. Et Paul a été amené à les reprendre. Dans ce genre d'attitude, juste quelques chapitres plus tôt, il dit quelque chose qui est dur à entendre. Il dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et ça, c'est assez difficile à appréhender dans une première lecture. Ça veut dire que Dieu me connaît et me reconnaît lorsque je l'aime. Dieu me connaît et me reconnaît lorsque je l'aime. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et réciproquement, on pourrait dire, c'est lorsque je l'aime que j'approfondis ma connaissance de Dieu. Les Corinthiens, quoi qu'ils en pensent, ne sont pas encore prêts à voir Dieu face à face. Ils s'appuient sur toutes les richesses dont ils ont été comblés. Rappelez-vous les premiers versets du chapitre 1, versets 4 à 8. Ils ne sont pas encore en situation de faire autre chose que de désirer davantage de puissance et de pouvoir. Et Paul leur répond, aimez. Ils voient des choses, ils en ont compris beaucoup, ce n'est pas une église pauvre, on l'a vu. Il reste néanmoins une dimension à explorer pour eux, et pour nous aussi d'ailleurs. Toujours, c'est celle de l'agapé, de l'amour inconditionnel, sans espoir de retour, et de l'amour qui donne et qui se donne. Alors en conclusion, pour nous, parce que nous ne sommes pas Corinthe, et aucune assimilation recherchée ce matin de notre Église à celle de Corinthe, mais il y a dans les lettres de Paul toujours quelque chose à retirer pour nous, quelle que soit notre situation d'Église. Nous ne sommes pas Corinthe, et tant mieux, parce que ça devait être vraiment fatigant, vraiment énervant. Corinthe, je ne sais pas si j'aurais aimé vivre dans une telle église, mais bon. Mais nous, nous avons besoin aussi, tout en reconnaissant nos richesses et nos dons, et nous en avons, de nous sentir pauvres et démunis, toujours en apprentissage. Quatre choses. Si nous considérons avoir des richesses qui concerne la parole et la connaissance, et nous en avons. Si nous considérons avoir été pourvus de dons, Entendons ce que dit Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Deuxième chose. Si nous considérons faire Église et sommes contents de nous en tant que communauté, examinons si chacun a bien une place et un rôle dans le corps que nous voulons former. Troisième chose, si nous sommes contents de nous-mêmes au regard du chemin parcouru, alors souvenons-nous qu'il nous faut grandir encore et qu'il est long le chemin papa, comme dit la chanson. Quatrième chose, si nous voulons connaître Dieu, ça c'est un grand mystère, il nous faut d'abord l'aimer. Aimer pour connaître et non pas connaître pour aimer. Et ça c'est un sacré renversement de perspective. Relisons ce verset. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen.